demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mardi. Nous sommes le 18 octobre, nous reviendrons sur la grève interprofessionnelle nationale qui se décline bien sûr à Lyon avec une manifestation prévue, en particulier devant la préfecture. Le dépôt de Fezin fait à son tour l'objet de réquisitions depuis hier. Policiers, avocats ou encore magistrats sont descendus dans la rue hier, nous verrons pourquoi dans le courant de cette édition. Pascal Mayos, le préfet du Rhône, pourrait bien quitter Lyon prochainement, nous verrons pourquoi dans le courant de ce quart d'heure lyonnais. L'assemblée plénière de la région, programmée jeudi et vendredi, se tiendra en visio. Colère de l'opposition qui attendait des réponses concernant les révélations de Mediapart sur un coûteux dîner des sommets à 100 000 euros dans le Beaujolais l'été dernier. En 2024, le Centre d'histoire de la résistance et de la déportation doit être en mesure de présenter une nouvelle version du film retraçant le procès de Klaus Barbie aux 24 colonnes en 1987. Dans l'actualité également, Grand Plateau, un tiers-lieu qui réunit les acteurs de la mobilité active et en particulier la filière vélo. Explications et reportages, nous avons rencontré notamment Vincent Monat, le DG de Vélogique, qui est aussi vice-président du CARA et qui conduit donc ce projet Grand Plateau à Villeurbanne. Nous avons rencontré également Henri Roussel qui gère lui l'usine à vélo, toujours sur le même site.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La grève interprofessionnelle nationale à Lyon, c'est devant la préfecture que le plus gros rassemblement aura lieu. Les syndicats des lycées professionnels se rassemblent à 11h place Guichard avant d'entamer une marche jusqu'à la préfecture pour rejoindre donc ce rassemblement interprofessionnel. À 16h30, c'est le personnel de l'Opéra en grève qui se rassemblera pour demander une revalorisation des salaires. La CGT Spectacle appelle tous les artistes et techniciens à se rassembler devant l'hôtel de ville pour réclamer un refinancement du secteur culturel, particulièrement attaqué dans notre région. Notez que la SNCF prévoit un trafic légèrement perturbé sur les trains Ouigo. Le trafic TER sera quant à lui davantage touché. Le dépôt de Fezin fait à son tour l'objet de réquisitions depuis hier. 7 salariés grévistes sont tenus d'être présents de 14h à 20h à leur poste de travail sur le site de la raffinerie. Leur réquisition a été notifiée en main propre lors de la visite des gendarmes à leur domicile. La préfecture du Rhône fait état d'une réquisition adaptée pour assurer un service minimum d'expédition permettant de répondre aux besoins et services essentiels d'Auvergne-Rhône-Alpes. Le mouvement de grève se poursuit en tout cas malgré un accord trouvé avec la CFDT et la CFE-CGC. Ce mouvement vise à obtenir une revalorisation générale des salaires de 10% avec pour argument principal une répartition des super-profits réalisés par Total Energy. Policiers, avocats ou encore magistrats, 200 personnes se sont rassemblées hier devant le tribunal judiciaire de Lyon, comme dans 35 autres villes de France. L'objectif était de s'opposer à la réforme de la police judiciaire envisagée dès 2023 par le ministère de l'Intérieur. Une réforme qui vise notamment à placer tous les services de police, renseignement, sécurité publique, police aux frontières et donc police judiciaire sous l'autorité d'un même directeur départemental de la police nationale. Les agents de la PJ appartiendraient alors à une filière investigation commune avec leurs collègues de la sécurité publique. La PJ s'inscrit dans un temps d'enquête plus long et nécessite des moyens spécifiques, explique l'Association nationale de la police judiciaire, laquelle demande une sanctuarisation des moyens de la PJ pour lutter contre la criminalité organisée et complexe.
Lyon demain, à la maison, au bureau, dans le bus, en voiture, avec CarPlay ou Android Auto. Lyon demain, accessible partout, même dans les tunnels.
Pascal Mayos, préfet du Rhône, a été retenu pour succéder à Laurent Nunet, nommé en juillet à la tête de la préfecture de police de Paris au poste de coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Annonce faite par la rédaction du Monde hier soir. La nomination devrait être validée et annoncée lors du prochain Conseil des ministres. Le coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme a un accès direct au chef de l'État. Il lui transmet ainsi qu'au Premier ministre les informations fournies par les services tels que la DGSE ou la DGSI et également la DRM, qui doivent être portés à sa connaissance. Ce poste n'est pas cumulable avec celui de préfet de région. Cette nomination marquerait donc le départ de Pascal Mayos de la préfecture du Rhône. Arrivé en octobre 2018, son passage aura été marqué par la gestion de plusieurs gros dossiers, comme bien sûr la pandémie, mais aussi l'insécurité à la Guillotière. L'assemblée plénière de la région, programmée jeudi et vendredi, se tiendra en visio en raison du contexte national, précise l'exécutif LR, sous-entendu avec la pénurie d'essence. Mais l'opposition y voit un tout autre motif, dépeignant Laurent Wauquiez fuyant ses responsabilités, les questions des élus et les questions des journalistes, et ce quelques jours après les révélations de Mediapart sur le coûteux dîner des sommets, 100 000 euros, repas qui s'était tenu le 23 juin dernier dans un château du Beaujolais. En 2024, le CHRD, le Centre d'histoire de la résistance et de la déportation de Lyon, devrait être en mesure de présenter une nouvelle version projection du film retraçant le procès de Klaus Barbie aux 24 colonnes en 87. Objectif, réutiliser les images historiques du procès de l'ancien nazi pour en proposer une lecture plus juridique, mais sans pour autant amoindrir la puissance émotionnelle des extraits déjà connus du grand public. L'ancien responsable de la Gestapo a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité le 3 juillet 87 après avoir fui la justice pendant 36 ans. Le déroulement du procès, ses différents acteurs, la notion de crime contre l'humanité, les quatre chefs d'inculpation, la parole des témoins, l'accusé et le verdict, ce sont les six principales thématiques qui sont abordées dans la nouvelle version du film.
Lyon demain, idée en partage.
L'ancienne usine Bob's à Villeurbanne est devenue pour au moins 5 ans le centre névralgique de la planète vélo. La manufacture des mobilités actives a pris le nom de Grand Plateau, terme technique que tous les adeptes du vélo connaissent très bien et qui signifie que la filière des mobilités douces va mettre le grand braquet. Grand Plateau est un tiers-lieu qui réunit des acteurs de la mobilité active. Cette association est présidée par Vincent Monat, directeur général chez Vélogic et vice-président du CARA, Cluster Transport. Tout a commencé en 2019 avec la création d'un cluster MAD, Mobilité Active et Durable, lequel s'est fondu ensuite dans le CARA pour inscrire le vélo dans la palette des systèmes de transport pour personnes et marchandises. Grand Plateau est en quelque sorte le laboratoire des mobilités douces. Les explications de Vincent Monat que nous avons rencontré.
Grand Plateau, en fait, c'est la capacité de pouvoir accueillir sur un tiers lieu des entreprises, des start-up, des PME, des TPE, qui vont se mettre en synergie sur un lieu commun, partager des espaces, partager des solutions et partager des dynamiques économiques.
Quelques exemples d'entreprises qui sont déjà implantées ici.
Donc des exemples comme Adbike, Vepli, qui sont aujourd'hui des acteurs qui sont présents depuis le début sur ce grand plateau et qui accueillent aujourd'hui de nouvelles entreprises comme Refbike ou Tutut par exemple.
Quelles sont les recherches qu'ils mènent ici dans ces murs ?
C'est des recherches de dynamique autour de la fabrication et de l'innovation, donc de nouvelles pièces et de nouvelles productions avec un laboratoire notamment sur de l'imprimante 3D et autres. Et c'est de la synergie aussi de services, donc c'est de la complémentarité de service. Et enfin, une action, une coopérative donc qui regroupe à peu près 6 entreprises qui sont réunies en coopérative pour produire, donc assembler des vélos autour d'une chaîne d'assemblage.
En quoi ça participe à la structuration de cette filière ? C'est ce qu'on attend finalement, hein, c'est que cette filière vélo se crée enfin.
La structuration de la filière, c'est avant tout la capacité à pouvoir regrouper un certain nombre d'acteurs dans un lieu, de créer des dynamiques communes, mais aussi de pouvoir fédérer sur un territoire à l'échelle de la métropole, puis à l'échelle de l'Auvergne-Rhône-Alpes, des acteurs qui vont être le relais d'une politique économique, politique associative autour des enjeux de la mobilité, des enjeux du vélo.
Et qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que cette filière elle prenne vraiment forme ?
Il manque de la coordination, en fait. C'est un premier élément. Donc là, aujourd'hui, le 15 novembre, ou en tout cas à partir du 15 novembre prochain, on va avoir l'annonce officielle de la création de cette filière qui va regrouper des acteurs économiques, des acteurs associatifs, comme la FUB par exemple, des acteurs du monde académique, des chercheurs et autres, et des acteurs du monde politique. Donc c'est assez innovant de regrouper ces quatre piliers sous un nom de filière Vélo France. Et aujourd'hui, le démonstrateur à l'échelle locale, c'est le Grand Plateau.
On a l'impression que la volonté politique, elle est présente ici au niveau de la métropole, au niveau de la région également, qui investit beaucoup au niveau de l'État. Vous sentez également un frémissement ?
Au niveau de l'État, on a eu une annonce il y a quelques jours de 250 millions d'euros avec le plan vélo. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a une vraie volonté de structurer la filière vélo. Non pas que le vélo soit un élément prépondérant, mais c'est plutôt dans une image de mobilité. Aujourd'hui, on a des pénuries d'essence et autres. Et l'idée de pouvoir se déplacer autrement ou de rendre des services disponibles autrement, le vélo est un enjeu de mobilité important sur lequel l'État, mais aussi l'Europe, souhaite compter et donc financer.
Produire français, c'est un rêve ou ça peut être une réalité demain ?
Sur certaines échelles et certaines pièces détachées, c'est possible. Maintenant, on va plutôt réfléchir à l'échelle européenne. Donc, on va réfléchir à la complémentarité qu'on peut avoir avec le Portugal qui a lancé, ils ont lancé une économie aussi autour de la production vélo. La Lituanie aussi. Bref, un ensemble d'acteurs au niveau de l'Europe qui peuvent se coordonner justement sur la production à l'échelle européenne pour éviter justement des pénuries et autres par rapport à l'Asie.
Est-ce que Lyon enfin peut se targuer d'être à la pointe de la recherche en matière de vélo grâce à cet équipement ?
En tout cas, Lyon et la métropole de Lyon regroupent un bassin d'entreprises qui est très très important, donc des start-up, des TPE et des PME. Et aujourd'hui, c'est ce tissu-là qui innove, donc la métropole de Lyon et plus largement la région Auvergne-Rhône-Alpes est le premier employeur français en tout cas le premier territoire employeur français en termes d'emploi vélo.
Au cœur de ce grand plateau, 6 fabricants de cycles ont voulu créer une unité commune d'assemblage de roues et de vélos. L'usine à vélo, c'est son nom. Son objectif, assembler 15 000 cycles d'ici 3 ans. Nous avons rencontré Henri Roussel, gérant de cette coopérative.
Alors, l'usine à vélo, c'est une coopérative d'assemblage. L'objectif, c'est de mutualiser entre plusieurs marques l'assemblage de vélos et de roues pour permettre à chacune de ces marques d'augmenter leur capacité de production, leur productivité et gagner en flexibilité.
Depuis que Saint-Etienne n'est plus la capitale du vélo, on a l'impression que c'est fini, la production en région, ça va revenir ?
On l'espère tous. En tout cas, il y a tout un mouvement de fond du Made in France et d'une volonté de relocalisation. Nous, on s'inscrit pleinement là-dedans. Pour le moment, on est sur le maillon assemblage de vélos et on espère par la suite enrichir la palette de services mutualisation pour à terme essayer de faire revenir le plus de fabrication de pièces localement et basculer d'une dépendance aujourd'hui à l'Asie à quelque chose de beaucoup plus local.
Concrètement, quelles pièces pourraient être fabriquées ici en Auvergne-Rhône-Alpes et en particulier à Villeurbanne ?
Il y a plusieurs exemples où c'est déjà le cas aujourd'hui. Par exemple, la marque Cyclic qui fabrique des vélos en bambou a réussi à refaire localement des cadres. Il y a d'autres composants sur des pédales en injection plastique ou des cadres en injection plastique où il y a plusieurs industriels qui se posent la question. Dans la vallée de l'Arve, il y a plusieurs industriels qui travaillent sur tout ce qui est système de freinage, par exemple, pour faire localement. Il y a plein de projets qui émergent et il y a une belle dynamique en cours.
Quelles sont les conditions pour que ça réussisse, pour que la mayonnaise prenne ?
Il faut arriver à atteindre une taille suffisamment importante, une taille critique pour intéresser les gros acteurs industriels. Aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs qui étaient avant équipementiers automobiles qui maintenant s'intéressent à la filière du cycle. Par contre, la filière est encore un petit peu atomisée et il faut réussir à la structurer pour massifier les volumes et atteindre les seuils critiques qui intéressent ces industriels.
Quels sont les acteurs qui ont débuté ici à produire la production ?
Alors, à l'usine à vélo, il y a 6 marques, donc Adbike, B2E Bike, Vepli, Afongaston, Bénure et Cyclic. Donc pour qui on assemble les vélos chaque semaine. Pour le moment, on est à 800 vélos en 3 mois. Et l'objectif, c'est de monter la capacité de production pour être à 15 000 vélos à horizon 3 ans et répondre aux prévisionnels de chacune de ces marques, voire pour d'autres marques sur la partie assemblage de roues, où on a une ligne d'assemblage semi-automatique et automatique qui permet d'avoir des très grandes capacités de production.
Quelle est la complémentarité, enfin, avec le Grand Plateau, l'autre entité qui vous accueille, en fait, ça.
Oui. Alors, il y a plein de synergies. La première et la plus évidente, c'est la proximité entre les marques qui nous confient leur production et le site d'assemblage qui permet, quand il y a des soucis qualité ou des questionnements ou des améliorations, de tout de suite avoir le bureau d'études à côté pour leur faire les suggestions d'amélioration. Et plus globalement, c'est s'inscrire dans une dynamique collective avec d'autres marques qui ne sont pas forcément partenaires ou pour qui on assemble, mais qui sont présents sur le site et ça offre une richesse et une diversité d'échanges qui est bénéfique à tout le monde.
D'un côté, c'est un lab, de l'autre côté, c'est une unité de production, ça, on peut résumer ça ainsi ?
Oui, on peut dire ça avec d'autres marques qui ont leur bureau d'études ou qui ont d'autres process de fabrication. Sur le site, on réfléchit aussi à mutualiser une sorte de Fab Lab, donc avoir des équipements performants qui sont communs. Et tout ça, forcément, ça bénéficie à l'activité de l'usine à vélo.
Est-ce qu'il y aura compétitivité en matière de coûts ? Parce que si on achète aussi des vélos qui viennent de l'autre bout du monde, c'est parce que des fois, ils sont moins chers. Hein ?
C'est vrai pour tout. Hein. Le Made in France, ça a un prix que le consommateur est peut-être de plus en plus prêt à mettre. Après, à nous aussi de travailler pour rendre le Made in France le plus compétitif possible. L'usine à vélo, avec son statut de coopérative, c'est aussi l'ambition qu'on a derrière. Et pareil pour la mutualisation des achats, dire obtenir un meilleur prix de revient, donner de la visibilité à des industriels et améliorer la compétitivité. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, l'assemblage de vélos en France, en tout cas pour l'usine à vélo, c'est plutôt des vélos moyens, haut de gamme et uniquement des vélos électriques pour ce problème de compétitivité.
Pour rappel, la filière du vélo, c'est un chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros dans la région, 930 emplois dans 120 entreprises et surtout une belle marge de progression en perspective compte tenu des situations de pénurie et de hausse des prix de l'énergie.
Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
Fabien Galthié a finalement sélectionné 6 joueurs du Loup dans sa liste des 42 joueurs pour préparer les tests de novembre, en plus de Baptiste Couillou, Dylan Crétin, Kylian Guérassi et Romain Atao Fifenoua. Il a retenu l'ouvreur Léo Berdeux et pour la première fois, l'ailier Ethan Dumortier. L'Olympique Lyonnais a publié un communiqué médical suite à la blessure subie dimanche par Corentin Tolisso lors du match face au Stade Rennais. Le club lyonnais reste vague, expliquant que les examens passés par le milieu international ont révélé une lésion à la cuisse gauche. Aucune précision quant à la durée de son indisponibilité. Enfin, Karim Benzema, Ballon d'Or 2022, l'attaquant formé à l'Olympique Lyonnais né à Bron, a reçu le trophée des mains de son compatriote Zinedine Zidane, dernier Ballon d'Or français. Pas de Ballon d'Or féminin, ni pour Wendy Renard, ni pour les joueuses de l'Olympique Lyonnais qui étaient en lice. C'est la Barcelonaise Alexia Putellas qui décroche son deuxième trophée consécutif. Ada Hegerberg a terminé 7e, Wendy Renard 8e, Katarina Macario 9e, Christiane Endler 12e et Selma Bacha 14e. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. Excellente journée.